Parce que c'est vrai, je n'ai certainement pas pu saluer chacun ce matin, chacune. C'est vrai que mon cœur déborde de reconnaissance parce que jamais j'aurais imaginé, il y a des années en arrière, qu'un jour je me tiendrais sur une estrade d'église. J'étais dans les bancs d'église, sur les bancs d'église, mais j'étais tiède. Et quand je chantais ce matin, je me disais, mais toutes ces paroles, elles sont tellement importantes. Mais je crois qu'elle descendait pas de là jusque là. Donc je chantais, mais je pense que je ne savais pas ce que je chantais. Parce que si on réalise ce qu'on chante, vous avez déjà tout dit à Dieu ce matin. Je t'aime. J'aime ta présence. Tu es celui qui est le tout de ma vie. Vous avez tout dit. On pourrait dire amen. Vous êtes d'accord? Si on pense et si on chante ce qu'on a lu, on a une vie spirituelle riche. Et on sait en qui on a mis notre confiance. Voilà. Donc, merci pour votre accueil. Merci de m'accorder du temps. Je vais quand même regarder la montre. Voilà. Alors, ce matin, c'est vrai, je suis engagée déjà depuis maintenant 4 ans, plus de 4 ans et demi à Portes Ouvertes. Là aussi, Dieu a pourvu d'une manière surnaturelle à ce que je puisse être engagée dans cette association, cette organisation qui fêtera ses 60 ans l'année prochaine. 60 ans qu'un homme a décidé de mettre sa foi en danger. Et ce sera le thème de notre année prochaine. Mettre sa foi en danger. On ne sait pas trop bien ce que ça veut dire ici. C'est vrai, moi non plus. Mais peut-être que d'être juste de temps en temps rappeler de qu'est-ce que ça veut dire mettre sa foi en danger. Et je suis responsable du ministère de femme à femme. Je n'aurais pas mis ça, mais aujourd'hui, toutes nos bannières sont dans les églises. Donc, j'ai mis femme à femme, mais bien entendu que mon cœur n'est pas que pour les femmes, mais pour les femmes et leurs familles. Et ça englobe les parents, les pères, les enfants qui souffrent d'une manière silencieuse aussi souvent parce qu'ils sont les simples victimes d'une situation qu'ils n'ont pas choisie. Mais ce matin, j'espère que vous allez repartir différent, avec une perspective différente, et parfois je dis aussi avec une autre paire de lunettes, celle de la joie. Vous allez dire, elle est vraiment spéciale. La joie dans l'église persécutée, oui. C'est pas moi qui le dis. On le trouve dans le livre de tous les trésors. Paul parle de la joie qu'il a d'entendre les bonnes nouvelles qu'il reçoit des chrétiens qui sont persécutés, mais qui tiennent bon. Voilà la joie. L'encouragement. Si on lit les nouvelles qu'on reçoit d'une manière encourageante en se disant, Mais si j'obtiens jusqu'à ma maison, dans mon appartement, je lis les nouvelles de Anna, de André, de je ne sais qui, ça veut dire qu'il tient bon. C'est donc encourageant. Oui, il y a des gens qui, il y a des chrétiens qui renoncent tellement le prix est lourd. Mais il faut s'encourager, lire ces nouvelles d'une autre manière, ne pas avoir peur. La peur, vous savez bien qu'elle nous prive de tous nos moyens. La peur, c'est pas une bonne émotion dans ce sens-là. Si vous êtes vous êtes confronté à un accident et que vous êtes saisi par la peur, vous ne serez pas efficace. Et Anna, qui était là au mois de mars, elle nous l'a répété. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Ça ne sert à rien d'être culpabilisé, parce qu'ici, c'est vrai, on vit dans l'abondance, dans la liberté. Mais ça ne sert à rien d'être culpabilisé, parce que ça aussi, c'est un sentiment qui nous paralyse. Je suis culpabilisée parce que j'en fais pas assez. Non. Seigneur, qu'est-ce que tu veux alors de moi? Et ce matin, j'ai à cœur de vous partager quelque chose qui m'a, moi, interpellée au mois de mars, alors que j'étais en voyage dans un pays du Golfe, un pays extrêmement fermé, vous pouvez imaginer, où il y a juste zéro liberté pour les gens du pays. Tout ce qui est autorisé, c'est seulement les églises des expatriés. Et lors d'un partage avec les participantes du voyage, il y en a une qui a lu un texte que vous devez connaître et que je vais utiliser ce matin, parce que Dieu m'a dit, regarde, j'ai choisi d'avoir besoin de personnes à ma droite et à ma gauche. J'ai choisi. Jésus, il a besoin de personne. Il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de vous. Mais il a choisi de nous rendre actifs avec lui. Et cette position-là, on la trouve dans le texte de Exode 17. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire une partie. Moi, je vous encourage à être curieux. Parce que depuis des mois maintenant que ce passage m'habite, on va dire, chaque fois que j'y pense, j'y trouve une nouvelle perle. Et je vous encourage aussi à méditer la parole. Elle a des perles. C'est un peu comme, vous savez, des couches. On a vu la première couche, puis après, on descend dans la deuxième, dans la troisième. Et je crois qu'il n'y a pas, on n'arrivera jamais au cœur. Dieu aura toujours des surprises pour nous dans sa parole. Et ce texte est tellement riche qu'on pourrait y passer la journée. Mais je vais m'arrêter quand même au temps qu'on m'a imparti. Vous savez, c'est Aaron et Hur. Vous savez, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël et se trouvent confrontés à la xième difficulté après leur sortie d'Égypte. On pourrait déjà se dire, attends, le peuple d'Israël, choisi par Dieu, pourquoi il doit souffrir? Voilà déjà une première question, n'est-ce pas? Quand on est enfant de Dieu, on espère que, dans le fond, on est protégé, béni. Mais non, Dieu permet des épreuves, Dieu permet des tempêtes, Dieu permet des temps de désert, des temps de famine. Alors ils ont crié, vous le savez comme moi, ils ont eu faim, ils ont eu soif, ils se sont plaints. Et puis on se dit, tiens, maintenant peut-être qu'ils sont dans une période de calme. Mais non, voilà des Amalécites, un peuple de pillards qui s'approchent. Venir piller cette immense colonie qui se déplace dans le désert. Alors vous connaissez l'histoire, Moïse dit à Josué, prépare la bataille, équipe les personnes choisies pour ça, et moi je vais aller sur la colline avec Aaron et Hur. Josué se conforma, c'est Exode 17, verset 10, Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus, et ils lui soutinrent les bras chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites. Et j'aime aussi ce que dit l'Éternel, il dit à Moïse, « Consigne cela par écrit, pour qu'on en garde le souvenir, et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek sous le ciel. » Pourquoi l'Éternel avait besoin de spécifier que cet épisode devait être inscrit? Eh bien, pour qu'en 2014, une petite Claire vienne partager ce que là encore Dieu avait mis dans mon cœur à travers ce passage. Il m'a dit, j'ai choisi d'avoir besoin des Aaron et des Hur. On est tous des Aaron et des Hur. On est tous appelés à monter sur la colline avec Jésus. Et ce matin, on a chanté « J'aime ta présence ». Parce que c'est dans les endroits de la présence de Dieu qu'on connaît comment prier, comment intercéder, quelle est la stratégie que Dieu veut pour nos vies. C'est pas dans le cœur de la bataille, c'est dans les bureaux où se décide la stratégie que la guerre se gagne, vous êtes d'accord? Ceux qui partent à la bataille sont ceux qui suivent les ordres. Mais les ordres viennent du quartier général. Nous sommes appelés à être dans la présence de celui qui donne les ordres. C'est pas extraordinaire ça? En tout cas, moi, ça a changé ma manière de prier. Parce qu'à chaque fois maintenant que je prie, je me vois à côté de Jésus, intercédant pour ceux qui sont dans la bataille. Et ça change complètement ma manière de prier. Et ça m'encourage. Et si je vous dis justement que vous pouvez lire les témoignages de l'Église persécutée comme autant de victoires gagnées parce que vous vous êtes élevé, ça va changer votre manière de prier. Et vous n'allez pas partir en disant « Oh non, je ne veux pas entendre parler d'horreur ». Vous allez dire, chaque fois que j'élève ma voix, quelque part à travers la planète et autour de moi, parce qu'il y a des batailles qui se mènent autour de ma propre vie, celle de mes enfants, celle de mes petits-enfants, celle de mes parents, celle de mes grands-parents, celle de mes voisins. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans la bataille, ils ne le savent même pas. Mais mon rôle, c'est de me tenir à côté de celui qui donne les ordres et qui m'inspire ma stratégie. J'aime ta présence. J'espère que vous pouvez tous dire et soupirer après la présence de Jésus. C'est le meilleur endroit. C'est là qu'il y a la plénitude. C'est là que on reçoit la direction. On est équipé. On est rempli. On est consolé. On est encouragé. Et l'Église persécutée, elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour nous rappeler qu'il y a une bataille, qu'il y a une grande bataille spirituelle qui se déroule à chaque instant sur cette terre. Et parfois, dans notre confort, on l'oublie. On ne la voit pas, la bataille. Alors voilà déjà encore une raison de plus pour rester connecté avec l'Église persécutée. Parce qu'elle nous rappelle qu'il y a une bataille qui ne cesse de se dérouler partout autour de nous. Et elle m'aide à me dire, il faut que je sois sur la brèche. Et en lisant les témoignages de cette manière, je vais être encouragée. Et moi, je vais vous donner 3 témoignages ce matin, puisqu'on a 3 pays qu'on a mis en évidence cette année pour le dimanche de l'Église persécutée. L'Égypte, l'Iran et la Chine, une partie de la Chine. Moi, je vais vous donner 3 témoignages qui vont vous permettre de repartir encouragé et encouragé à être à la meilleure place qui soit celle d'être à côté de Jésus. Parce que Moïse et Aaron et Hur, ils étaient tellement près l'un de l'autre, Aaron et Hur, ils ont vu que Moïse se fatiguait. S'ils avaient été en bas, à vaquer à leurs occupations, à s'occuper de leurs moutons, ou peut-être de d'une fille malade, ou je ne sais quoi, ils n'auraient pas senti la fatigue de Moïse. Et parfois, on travaille pour Dieu, mais loin de Dieu, et pas avec Dieu. Parfois, Dieu nous demande de stopper nos activités, même des bonnes activités, parce qu'il aimerait nous avoir près de lui. Parce qu'on est deux fois plus efficace quand on suit les ordres du quartier général, n'est-ce pas? Alors, un témoignage d'Égypte. Vous connaissez bien la situation en Égypte, on en a parlé dans les journaux, dans les médias, toute la pression qui existe. Et bien entendu, dans des pays musulmans, il est interdit d'évangéliser dans la rue encore plus. Mais cet été, des jeunes ont eu à cœur de faire quelque chose pendant le ramadan pour leurs voisins et les personnes qui étaient dans la rue, les musulmans. Et ils se sont dit, on va préparer des petits sachets avec des dattes. Quelque chose que là-bas, qui est très courant, les dattes. Et ils ont mis des dattes avec un petit mot. Et ils se sont décidés d'aller distribuer ça. Ils ont pris des risques. Ils ont mis leur foi en danger. Ils sont sortis et ils ont donné ça à la fin de la journée quand il arrive la fin du ramadan dans chaque journée ils peuvent manger. Et ils ont été distribués ces sachets. Et dans ce sachet, il y avait le petit mot suivant. Chers amis musulmans, nos salutations pour le ramadan. Que la bénédiction, la grâce et la lumière de Dieu puissent enrichir votre vie. La Bible dit « Ayez de l'amour les uns pour les autres. Aimez les autres de tout votre cœur. » Et c'était signé « Votre ami chrétien ». Ces jeunes ont bravé les dangers, vous le savez. Et il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux, c'est vrai, tous n'étaient pas très aimables. Mais ils ont pu avoir une attention concrète de l'amour de Dieu. On ne sait pas les fruits, on les verra au ciel, mais ils ont bravé les dangers pour aller partager un petit bout de l'amour de Jésus. Et une participante témoigne de quelque chose qui était très fort qu'elle a vécu. Elle s'appelle, on l'a nommée parce que vous savez qu'on n'utilise jamais les vrais prénoms. Elle s'appelle Esther. Et elle raconte qu'une fois, pendant qu'elle marchait, le Saint-Esprit lui dit « Avance-toi et va parler à la jeune fille qui attend là à l'arrêt du bus. » Alors elle s'approche de cette jeune fille, puis elle lui dit « On ne se connaît pas, mais Dieu a mis sur mon cœur de venir vous parler. » Et la jeune fille s'est mise à pleurer parce qu'elle a dit « Je vis un temps très difficile, une période douloureuse et j'avais justement demandé à Dieu de me révéler sa présence. » À la fin de la conversation, cette jeune fille a accepté Jésus et l'autre jeune fille qui attendait près d'elle s'est aussi jointe à la conversation. Elle a demandé une Bible pour pouvoir chercher la vérité à laquelle elle aspire. Mais si cette jeune fille n'avait pas été attentive aux ordres que le Saint-Esprit avait mis dans son cœur, Dieu n'aurait pas pu, en tout cas pas pu l'utiliser elle, n'est-ce pas? Mettre sa foi en danger. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler à tort et à travers, c'est pas ce que je dis. Mais si on était juste un peu plus attentif, est-ce que cette personne-là a besoin d'une parole d'encouragement? Est-ce que, et ça produit des fruits? C'est un fruit de la prière des chrétiens du monde entier. Je veux croire que c'est le fruit de la prière des chrétiens du monde entier. En Irak, en ce moment, vous le savez, il y a des campagnes de prière, de sensibilisation par toutes les associations chrétiennes. Eh bien, dans les dernières nouvelles qu'on a eues, c'est qu'il y a des milliers de conversions. Le fruit de vos prières. Alors, je crois que ça ne peut que nous encourager à prier. Quand dans Timothée, c'est marqué, c'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient, en tout lieu, à la Migros, dans sa voiture, et en levant vers le ciel des mains pures, sans colère, ni esprit de dispute. On pourrait aussi parler là-dessus. Hein. Quel est l'esprit qui m'habite ? Est-ce que le Saint-Esprit peut intercéder pour moi ? Ou est-ce que mon cœur est rempli d'amertume, comme on l'a chanté ce matin ? Levez les mains avec un cœur pur pour intercéder pour ceux qui sont dans la bataille. Un autre témoignage encourageant qui vient de Chine. Première bonne nouvelle, c'est qu'on va ouvrir un bureau portes ouvertes en Chine. Vous vous rendez compte ? On va ouvrir un bureau, comme le bureau qui est en Suisse, en France, en Angleterre, en toute liberté, un bureau qui va sensibiliser les Chinois à la persécution. Ça, c'est aussi le fruit des années de prière. Quand frère André a commencé la Chine, vous vous souvenez, l'opération Perle, 3 millions de bibles, je crois, qu'il a fait passer en comme une opération d'espionnage. Et aujourd'hui, un bureau qui s'ouvre. Il doit être heureux. Il doit être vraiment encouragé de ce qu'il a un jour dit oui. Un jour, il s'est tenu et il se tient toujours là-haut sur la colline avec celui qui l'inspire. Alors la Chine, un pasteur de Beijing, il dit « Aujourd'hui, nous avons des dizaines d'églises de maison qui regroupent plus de 1000 chrétiens. Bien sûr, les autorités suivent de près notre travail. » Et il m'invite régulièrement au poste de police. Il m'offre un thé et pose beaucoup de questions. Mais chaque fois, je demande à mes frères et sœurs de prier pour moi, pour qu'avec le thé, je puisse apporter une pleine cuillère de l'évangile. Chaque mardi, notre groupe de jeunes distribue des flyers et partage leurs témoignages dans les rues. Même s'il est interdit d'évangéliser, nos jeunes croient que c'est la bonne chose à faire. Et cette année, personne n'a été arrêté. Sachant que si tu invites quelqu'un à venir à l'église, il va répondre non et ajouter qu'il ne croit pas. Il les invite alors pour un repas dans une des maisons. De cette manière, il n'y a pas de problème. Et l'église grandit. Et plusieurs Chinois sont déjà engagés dans des missions hors de Chine. C'est le fruit de la prière. De vos prières, de nos prières. Depuis combien d'années les chrétiens ont prié pour des ouvertures ? Croyons que Dieu agit. Croyons que Dieu peut faire l'impossible. Croyons qu'en lisant les témoignages de l'Église persécutée, nous sommes juste ramenés aussi dans ce qui est important. Parfois, dans notre confort, je le dis parce que je l'ai aussi vécu, on oublie ce qui est important. Hier, j'ai rencontré une femme qui est réfugiée de Syrie. Elle m'a dit, mais dans ce pays ici, mais c'est extraordinaire. Tout est bien, tout est propre, tout est calme, tout est bien organisé. Pour elle, elle le disait, elle disait, mais c'est presque le paradis. Est-ce qu'on en est encore conscient ? Est-ce qu'on est encore reconnaissant ? Pour ce petit coin de paradis, qui n'est parfois à nos yeux pas paradisiaque, c'est vrai. Hein? C'est vrai qu'il y a des choses qu'on aimerait changer, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous font peur. Mais ne perdons pas de temps avec ça. Intercédons. Allons demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut, comment il veut qu'on prie pour notre pays. C'est aussi une de nos tâches, prier pour vos autorités. Et c'est vrai que parfois on se dit, mais comment, je ne peux pas prier toute la journée à genoux, dans mon coin, je travaille. Mais je crois que c'est un état, c'est un état, c'est une attitude de cœur. Ce n'est pas le nombre d'heures. Oui, je suis une femme privilégiée, je travaille que 2 jours par semaine, donc je peux prendre des temps avec Dieu. Mais je crois que c'est un état d'esprit. Si j'attends dans la queue à la Migros et que je m'énerve, et si je me disais, mais Seigneur, Peut-être que tu veux que je prie pour cette dame qui est devant moi ou cette caissière qui a l'air fatiguée et cet homme qui se bat avec son fils qui pleure. Si j'étais vraiment la lumière et le sel que Dieu me demande d'être, c'est un état d'esprit. Et du coup, ça va changer notre manière d'attendre à la Migros ou à la COP ou à la queue dans le feu rouge. Dieu va changer notre cœur. Je vous assure, il le fait avec moi. Il y a encore du travail. J'ai dit, il a encore un grand chantier, mais il le fait, il le fait. Il touche tous les aspects de notre vie quand on commence à lui laisser la première place. Est-ce que c'est l'objet de toute votre attention? Est-ce que le Seigneur Jésus est l'objet de toute votre attention? Je vous assure que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Parce que dans le chant qu'on a chanté ce matin, il y avait marqué « Je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Oh, mon cœur était plein d'amertume. » J'avais un cœur plein d'amertume. Je ne le savais pas. Et du coup, Dieu ne pouvait pas utiliser mon cœur. Ça, c'est une chose très importante. Est-ce que mon cœur est propre? Est-ce qu'il est préoccupé par des choses qui viennent mettre un filtre entre lui et moi? Si je veux être utile, ça ne veut pas dire que je dois être à genoux toute la journée. Mais ça veut juste dire je lui donne tout pour qu'il puisse nettoyer, utiliser. Et après, en fait, c'est le Saint-Esprit qui va intercéder. Même quand je travaille, il va intercéder pour moi. Parce qu'il sait quelles sont mes préoccupations. Il sait que vous êtes préoccupés par le salut de vos fils, de vos filles, par le salut de votre voisin, par le salut de votre mari, de votre femme, par le salut de votre collègue, par le salut de ceux qui sont autour de vous et qui se meurent. Il le sait. Parce qu'il sait que ça vous peine, comme ça le peine. C'est ça, respirer l'atmosphère divine. Et le Saint-Esprit va intercéder pour nous auprès du Père, pour ces hommes et ces femmes qui, de près et de loin, sont dans le champ de la bataille. Et en lisant les témoignages de l'Église persécutée, je vais me rappeler, je vais être reconnaissante, je vais voir la vie d'une autre manière. Je vais me dire, oui, c'est vrai, aujourd'hui, je passe par une épreuve lourde. Parce que parmi nous, il y a des gens qui passent par des épreuves lourdes. Mais je sais que Dieu me tient parce qu'il tient les gens qui sont persécutés. S'il est capable de les tenir debout, il est capable de me tenir debout. Et je vais prier. Et je vais continuer de regarder plus loin que mon petit cercle « je me moi ». N'est-ce pas ?« Je me moi ». Non, « eux ». Et Dieu va se préoccuper de moi si je me préoccupe d'eux. Un autre témoignage encourageant. Vous avez peut-être suivi l'histoire de Mariam et Marzieh, deux jeunes femmes qui ont été emprisonnées en Iran. Vous savez certainement que beaucoup connaissent cette histoire. Et elles ont témoigné. Elles ont dit que pendant les 8 mois dans la prison, à Téhéran, quand elles y étaient en 2009, elles ont raconté qu'elles se sont senties portées, qu'elles ont senti la présence de Dieu, que des femmes, que des gardiennes ont été touchées, qu'elles sentaient que des chrétiens du monde entier priaient pour elles. Et elles ont reçu une grande quantité de cartes. Elles ne les ont jamais eues entre les mains. Mais c'est pas grave. Les gardiens étaient impressionnés et puis ils devaient les lire parce qu'elles posaient des questions. Votre action porte des fruits. Votre engagement porte des fruits. Que vous priez, que vous écriviez, que vous leviez pour créer un groupe de prière, que vous écriviez des cartes à ceux à qui on a, évidemment, on pourrait écrire à tous, mais c'est pas toujours facile. Chaque action, chaque geste que vous posez pour eux est une source d'encouragement. Et pour celles qui reçoivent la lettre de femme à femme, je crois vous l'avez compris, mon souhait est que de vous encourager. Ne sortez pas culpabilisés, ne sortez pas chargés, mais stimulés. Et en gardant, si vous voulez, la mesure pas loin de nos yeux, ça nous aide aussi à mettre justement côte à côte mes problèmes et leurs problèmes. Et ça nous encourage. Dieu est un Dieu bon. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Vous le savez. Comment prier pour l'Église persécutée? Eh bien, j'ai envie de vous dire, je vais vous donner un devoir. Allez voir dans 1 et 2 Thessaloniciens et Colossiens, les deux épîtres de Thessaloniciens et Colossiens, c'est rempli de manière comment prier. C'est-à-dire, parfois on ne sait pas comment prier pour l'Église persécutée, c'est vrai. Leurs témoignages et leurs histoires sont dramatiques, oui. Mais Dieu nous demande de prier pour qu'ils aient la force de tenir jusqu'au bout. Et Paul dit, avec joie. Vous vous rendez compte? Et c'est vrai qu'ils ont une joie profonde. Ils ont quelque chose de la notion de pourquoi ils payent le prix. Au Bangladesh, on a rencontré un pasteur avec sa femme et sa fille. Et il avait été kidnappé, torturé. Il ne s'est pas étalé sur ce qu'il a vécu. Mais vous pouvez imaginer que ça n'a pas dû être facile. Il a été relâché, il a dû aller à l'hôpital. Il a pris encore quelques mois et quelques semaines pour se remettre de ce traumatisme. Mais sitôt qu'il allait bien, il a recommencé. Parce que son feu brûle tellement pour Jésus. Et puis alors on lui a posé la question, parce qu'on était, les voyageuses étaient autour de moi, et puis c'était la première fois qu'elles venaient sur le terrain, rencontrer des chrétiens persécutés. Alors je leur ai dit, demandez-leur pourquoi ils gardent la foi. Parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi, dans une situation si difficile, ne pas renoncer, vivre en paix dans son village, retrouver la vie tranquille. Mais là, la réponse qui est toujours la même, je sais ce que Jésus a fait pour moi. Je sais qu'il a donné sa vie pour moi, qu'il a payé de son sang pour moi. Alors je vais le suivre et je veux donner tout. Et puis la deuxième chose, il a dit, et puis la vie, elle est courte. Et vous êtes d'accord que ici, dans nos pays, on n'arrête pas de nous dire « réussis ta vie ». Il faut qu'elle soit pleinement remplie, accomplis tes rêves, accomplis ta destinée, accomplis, réalise-toi. Peu importe si tu dois quitter ton mari parce que ça va pas, pourvu que tu sois bien. C'est pas ce que Jésus nous demande. Je parle pas de situations extrêmes, il y a toujours des situations extrêmes. Mais qu'est-ce qui est important? Et j'avais envie de dire, il faut qu'on prenne une paire de lunettes où il est marqué « éternité ». Est-ce qu'on vit pour l'éternité? Est-ce que mes yeux sont fixés sur ce que je vais vivre après? Pour eux, leurs yeux sont fixés sur ce qu'ils vont vivre. Comme dans Hébreux 11, vous le savez. Ils n'ont pas vu, mais ils ont cru. En quoi ils croyaient? C'est-à-dire dans ce qu'on va vivre après. Alors peut-être que parfois, bien, il y aura certains choix, c'est vrai. Est-ce que c'est bien utile que je sois là, que je fasse ça, que je regarde ça? Est-ce que, Seigneur, tu voudrais pas que je me tienne plus à côté de toi maintenant pour respirer, pour être là, pour savoir ce que tu veux, comment tu veux que je prie? C'est vrai que j'ai pas fait théologie, comme je l'ai dit ce matin, j'ai pas été à l'école théologique parce que je pense que j'ai un peu dépassé l'âge. Donc maintenant, voilà, bien sûr que si j'étais plus jeune, je crois que je le ferais. Mais vous savez quoi? Je suis à l'école de Dieu, dans sa présence. Et il me forme, il m'équipe, il transforme mes pensées, il renouvelle nos pensées. La pression est telle que si on ne va pas au pied de la croix, dans l'intimité avec Jésus, la pression est trop grande. On va oublier la pensée de Christ. Alors prions pour qu'ils aient la foi, pour qu'ils tiennent debout, pour qu'ils aient la paix, pour que Dieu les remplisse de la capacité de faire le bien malgré la situation. Faire le bien au milieu d'un village où vous savez que presque tout le monde ne vous veut que du mal. Moi, je crois qu'on n'arrive pas à imaginer, bien sûr. Mais est-ce que j'arrive à faire le bien à quelqu'un qui m'en veut ici? C'est déjà difficile. Sans passer du temps dans la présence de Dieu, on n'y arrive pas. Ça, je vous défie. Ça tient un tout petit moment. Après, on retombe. Être dans la présence de Dieu, se laisser inspirer. Et vous allez voir le film maintenant sur l'Égypte, un des petits films. Il y a deux autres films que vous pouvez regarder sur notre site internet, sur le Dimanche de l'Église persécutée, qui parle des Chinois et de la région où se trouvent les Ouïghours. Et l'autre film, c'est sur l'Iran. Vous avez d'autres informations. Vous pouvez aller regarder sur l'Égypte dans le site de Femme à Femme. Vous avez un petit film aussi sur les projets qu'on a donc directement sur le terrain. Vous pourrez en savoir plus. Porte ouverte est présent dans 60 pays. Et puis, pendant le film, on se permet juste de passer des listes parce que c'est vrai, vous le savez, on est oublieux. Et puis, les publications permettent de se dire « Ah oui, il faut que je prie, il faut que je les mette dans mon cœur, il faut que je n'oublie pas qu'ils sont dans la bataille. » Alors, le magazine vous permet d'avoir un calendrier de prière tous les mois. Et la lettre de femme à femme, c'est pour qu'on ait plus encore ce cœur à cœur. Et je vous informe des voyages. On va partir en Indonésie au mois d'octobre de l'année prochaine, si des femmes sont intéressées, parce qu'il y a déjà 4 places, je crois, de prise. C'est une occasion extraordinaire de rencontrer des femmes qui vivent ce que je vous raconte, parce que c'est encore mieux de le vivre sur place, d'être touchées par ce qu'elles ont à affronter. Alors voilà, c'est tout simplement si vous voulez vous inscrire et recevoir donc régulièrement nos informations, faites-le donc dans les listes qui passent et ensuite on priera. Est-ce que c'est bon ? Voyez que c'était pas seulement mon opinion de dire qu'on peut être encouragé, que la prière produit des fruits. Ce témoignage-là, je l'ai pas commandé exprès pour confirmer ce que je vous ai dit. C'est le cœur de ce qui se passe dans beaucoup de pays. Malgré la persécution, l'évangile avance. Des hommes et des femmes découvrent la liberté et la vérité grâce aux prières des chrétiens du monde entier. Dieu utilise toutes sortes de moyens pour leur parler. Des songes, beaucoup dans le monde musulman. Alors, est-ce que vous allez aspirer à cet esprit de prière ? C'est ma prière ce matin, en tout cas pour vous. Et je pense qu'on va prier maintenant pour que chacun se sente libre d'exprimer au Seigneur la reconnaissance pour tout ce qu'on entend et aussi de fortifier son peuple qui est sous une grande pression, qu'il le garde fidèle jusqu'au bout. Voilà, on va prendre juste un temps de prière, que sentez-vous libre de prier.